Chers amis de Yes Doc, c'est reparti pour un tour. Nous revoilà. Qu'est-ce qu'il a notre invité là déjà? Voilà.
Il est content d'être là.
Il est content d'être là, mais je le sens un peu agité.
On s'en lasse pas.
Alors, nous revoilà pour un nouvel opus de notre émission préférée. Votre émission préférée avec Mayaël, chérie. Comment elle va, Mayaël, aujourd'hui?
Ça va, colonel.
Ça va, colonel. Oui, c'est private joke. Le colonel, va très, très bien. Mm-hmm. Et aujourd'hui, on reçoit un récidiviste. Vous êtes récidiviste, docteur?
Je le suis, je l'assume.
Il l'est et il l'assume magnifique. Nous recevons aujourd'hui le docteur Dany Souheri, qui est psychiatre et un très bon psychiatre et qui vient nous parler de la bipolarité, le trouble bipolaire, donc ce qu'on appelait à l'époque la maniaco-dépression. Un sujet passionnant. Je pense que c'est vraiment ton dada, ça?
Absolument, ça l'est depuis de nombreuses années. Grâce, bien entendu, à tous les témoignages des personnes qui en souffrent que je reçois tous les jours dans ma pratique.
Voilà, donc on va avoir une émission particulièrement intéressante et enrichissante. Enrichissante intellectuellement, Mayaël. Hein, on est bien d'accord sur le principe. Mais avant ça, Dany, toi qui as déjà eu l'occasion de venir, tu sais qu'on va parler de toi. Pour commencer, on a déjà parlé de toi, donc je te propose de parler plutôt de ton actualité, ou en tout cas de l'actualité qui t'intéresse. Et on a eu l'occasion déjà d'en parler un peu avant de démarrer l'émission. Tu as deux choses là qui m'ont l'air d'être assez passionnantes. Alors le micro est à toi.
Ah oui, merci. Ça me fait c'est un énorme plaisir de revenir discuter avec vous. Et effectivement, l'actualité professionnelle, deux choses qui me passionnent énormément. La première, c'est qu'on collabore depuis environ 2 ans avec une start-up israélienne du nom de Taliaz. J'invite les auditeurs à aller voir leur site internet.
Comment ça s'écrit?
Taliaz.
Ok.
Qui est le nom de famille de Dekel, Dekel Taliaz, hein, qui a fondé la start-up. Et on est devenus amis depuis lors. Et cette étude, en fait, elle est passionnante parce que, et pour dire combien en Israël, il y a des idées assez incroyables. Donc, c'est comment l'intelligence artificielle peut nous aider, nous, en tant que médecins, en tant que psychiatres, dans le choix d'un antidépresseur. Parce qu'on sait combien, déjà, le diagnostic de dépression n'est pas évident, mais dans l'arsenal thérapeutique qu'on a de nombreux antidépresseurs, il est difficile de se dire, mais voilà, tel antidépresseur va fonctionner chez une personne ou ne pas fonctionner chez cette même personne. Et donc, on est souvent confronté à des choix un peu arbitraires sur base de l'expérience ou sur base aussi d'une impression clinique qui nous fait dire que telle ou telle molécule va plutôt mieux fonctionner qu'une autre. Et en réalité, on se retrouve confronté à près de 30 à 40% des patients qui ne vont pas répondre à l'antidépresseur. Alors, c'est évident qu'on ne sait pas qu'est-ce qui fait qu'un patient va répondre à un antidépresseur? Il y a des facteurs psychologiques, des facteurs de personnalité, mais aussi toute une série de facteurs biologiques. La manière dont le foie va métaboliser le médicament, qu'est-ce qui va se passer dans son cerveau et la chimie de son cerveau au niveau sérotonine, noradrénaline, etc. Tout ça est une boîte noire totale pour le psychiatre qui va prescrire un antidépresseur. Et donc, ils ont eu l'idée de développer un outil d'intelligence artificielle qui va tenir compte de toute une série de paramètres démographiques, hommes, femmes, âge, du type de dépression, donc de la symptomatologie, une dépression plutôt anxieuse, plutôt agitée, plutôt ralentie, et bien entendu, grâce à un prélèvement génétique, pouvoir aussi avoir accès à cette fameuse boîte noire, tout ce qui concerne notamment l'enzymologie hépatique, hein, tu sais que les enzymes hépatiques vont être déterminants dans la manière dont je vais répondre à un médicament, même un antibiotique, hein, et c'est vrai pour les antidépresseurs, mais aussi toute une série de facteurs génétiques impliqués dans les mécanismes cérébraux qui sont liés à la réponse aux antidépresseurs. Et donc l'intelligence artificielle met tout ça en musique et arrive à sortir un résultat qui est une valeur prédictive de voilà, tel patient, en fonction de son profil clinique, démographique et génétique, sur ces deux plans, hein, enzymes métaboliques et aussi neurotransmetteurs, va répondre à plutôt tel antidépresseur qu'un autre, aura plus de chances d'avoir des effets secondaires avec tel antidépresseur qu'un autre. Et l'étude est une étude, dans le domaine scientifique, on connaît ça, qui est placebo-contrôlée, donc randomisée. Donc il y a deux groupes de patients. Il y a un groupe de patients qui va être traité comme d'habitude, treatment as usual, c'est le choix du psychiatre, par exemple du docteur Souhairi, qui va décider, sur base de son expérience, quel antidépresseur il aura, versus un groupe de patients qui va recevoir le traitement guidé par Predictix, parce que l'outil s'appelle Predictix.
Après Predictor.
Voilà. Et donc, on fait le prélèvement génétique, on remplit toutes les informations dans le système et on reçoit, quelques jours après, les résultats, en fonction des résultats du laboratoire qui a fait l'analyse génétique, qu'est-ce que le patient va recevoir, qu'il soit dans un groupe. Le groupe Predictix, c'est le choix de l'intelligence artificielle. Le groupe Treatment as Usual, c'est le choix du docteur Souhairi. Donc, l'étude est en cours. Elle est loin d'être terminée, mais on espère, voilà, au bout de l'étude, avoir une information sur est-ce que, comme dans d'autres domaines en médecine, la radiologie, tu sais,
chez nous,
entendu,
c'est clair.
Est-ce que l'intelligence artificielle peut faire mieux que le médecin ou le psychiatre ? Voilà, l'étude est en cours, malheureusement, depuis le 7 octobre.
Ben oui.
Elle a été interrompue parce que Thalia a décidé de mettre un maximum de moyens au service de la population en Israël, avec notamment des initiatives dans le domaine du soutien psychologique et psychiatrique. Il faut dire aussi que c'est une étude israélienne, mais qui est soutenue par un fonds qu'on appelle Horizon 2020 de la Commission européenne. Donc l'étude était tellement bonne qu'elle a eu ce type de soutien financier.
Mais vu le contexte ambiant en Israël actuellement, notamment, je pense que les gens ne vont pas bien. Est-ce que ce n'est pas le moment, justement, d'utiliser ce logiciel ?
Alors, en Israël, il est déjà utilisé parce qu'il est remboursé en partie par certaines mutuelles en Israël.
Ah, OK. Donc, on est plus qu'à l'étude, quoi. C'est
donc,
vraiment,
En fait, il a jamais été encore validé scientifiquement.
D'accord.
Ça, c'est l'étude. Et moi, je suis le coordinateur principal de l'étude parce qu'elle se fait pas. L'étude ne se fait pas en Israël, bizarrement. Elle se fait notamment en Europe et en particulier en Belgique. Mais ils utilisent déjà l'outil, mais sans qu'il ait été validé. Alors la question, c'est est-ce qu'il peut être utilisé aujourd'hui dans le cadre de la situation ? Je crains que ce soit prématuré, je veux dire.
D'accord.
Et d'autant plus que tous les patients, ou toutes les personnes, je vais dire, pas les patients, mais qui sont dans des états de souffrance psychique traumatiques en lien de par rapport à la situation en Israël, ne doivent pas nécessairement avoir des antidépresseurs.
Mais
bien
évidemment.
Sûr, le soutien psychologique...
Peut suffire.
Souvent,
quoi.
Suffit, ouais.
C'est
OK, ça, c'est ta première actualité. La deuxième.
Alors, la deuxième, ça, c'est aussi...
Ça, c'est assez dingo.
L'actualité brûlante, assez dingo.
Oui, enfin, moi, je suis un peu tombé de mon siège.
Ça va plaire à beaucoup de monde.
Moi, je trouve ça plutôt sympa. Et les jeunes, écoutez les jeunes, là, ça se passe ici. Là.
Non, il va y avoir une
allez, vas-y, Dani.
Chez le docteur Souhairi.
Il y a d'ailleurs une tribune qui est parue dans la Libre Belgique il y a 2-3 jours, à l'initiative de Caroline De Peut, qui est psychiatre... dans le même réseau de soins que moi à Epsilon. Et donc, en fait, ça concerne l'usage, tenez-vous bien, des psychédéliques dans le cadre de thérapies assistées par psychédéliques. Alors, c'est quoi les psychédéliques ? Ce sont des substances qu'on connaît bien, genre le LSD, c'est un psychédélique. Les champignons magiques, là, avec l'extrait des champignons qui est la psilocybine.
Les petits champignons d'Amsterdam.
Voilà, la MDMA, par exemple. Et donc, ce sont des substances qui ont été... très fortement utilisé dans les années 50-60 en Europe, aux États-Unis, vraiment dans un cadre thérapeutique. On savait à l'époque quelles étaient leurs vertus thérapeutiques et de soins, je vais y revenir. Et puis ça a été interdit, c'était l'époque de Nixon, je crois, où toutes ces substances étaient utilisées par les opposants de la guerre au Vietnam.
Ben oui.
Et je pense que l'administration Nixon, la CIA, a tout fait pour dire que c'est hyper dangereux, hyper malsain, hyper toxique. Et donc, ça a été finalement interdit. Et l'Europe a suivi pour rendre ces substances illégales, sauf certains pays comme la Hollande, par exemple. Mais il existe aux États-Unis des centres qui utilisent de manière agréée, autorisée. La FDA a approuvé l'utilisation de la MDMA, de la psilocybine, dans le stress post-traumatique, dans la dépression résistante au traitement, dans l'anorexie mentale. L'Australie est le premier pays où ça a été vraiment officialisé. Donc, les médecins prescrivent de la psilocybine ou de la MDMA. Alors, quel est le principe ? Le principe, l'idée, je te vois venir, on va bien s'amuser. Non, l'idée n'est pas de s'amuser, de faire la fête et de triper...
Il n'a rien dit. Hein.
Sous ce genre de substance, il n'a rien dit. Mais...
il en a pensé une tonne. Hein. Voilà.
Donc, c'est vraiment quelque chose qui est bien régulé. Il y a actuellement des essais cliniques, dont 2 essais cliniques en Belgique, un dans l'alcoolisme, un dans la dépression résistante, avec la psilocybine. Et ce qui est super intéressant, c'est tout le côté neurosciences. Hein, on sait combien, quand on prend de la psilocybine, apparemment, on fait un espèce de trip où on vit une espèce d'extase extraordinaire. On fait partie d'un tout, du vivant, les plantes, les organismes. On est comme ça dans quelque chose d'une ouverture cosmique. Il paraît que c'est une sensation extraordinaire.
On peut essayer pour faire une émission.
On continuerait pas l'émission avec champignons.
Je suis en train de triper là.
Excuse-nous.
C'est nous les hallucinations.
Là. Oui, non, excuse-nous.
Donc, toute cette expérience de vécu, elle est associée à des données de neurosciences qui sont extraordinaires, où on montre que la prise de ce genre de substance a un effet de plasticité cérébrale. C'est comme si ça multipliait la connectique cérébrale et toutes les connectivités, et qui donnerait accès du coup à des sensations extraordinaires. Donc au-delà de l'effet extatique, entre guillemets, les thérapies assistées par psychédéliques, dans des études qui sont déjà publiées dans Lancet, dans Nature, et donc des revues vraiment très sérieuses, placebo contrôlé, randomisé, certaines versus placebo, versus antidépresseurs, enfin placebo des séances, placebo de thérapie assistée par psychédélique, montre clairement une efficacité dans la dépression résistante, dans l'alcoolisme. Et la théorie sous-jacente de cette plasticité cérébrale, plasticité psychologique, montre en fait que les patients atteints de ces pathologies sont très souvent enfermés dans des mécanismes mentaux, dans des schémas mentaux qu'ils reproduisent, dans la consommation d'alcool, dans les pensées négatives, de la culpabilité, du dépressif, par exemple, comme si leur mode de fonctionnement mental par défaut n'utilisait qu'un seul canal, vous qui êtes à la radio, une seule fréquence. Et que cette expérience d'ouverture, je dirais, et de ce trip psychédélique permettait justement une flexibilité mentale et psychologique qui permet aux patients d'exister autrement que dans son tunnel.
Oui, ça doit être passionnant, ça.
Et l'avantage, on en parlait avant, hors antenne, c'est qu'il n'y a pas de dépendance. Donc.
Alors, il n'y a pas de dépendance. Donc, on a diabolisé, comme je le disais, ces substances. En réalité, la seule dangerosité liée à ces substances, c'est les comportements dangereux qui peuvent être associés. Donc, par exemple, si je suis dans un trip à la psilocybine, je peux me prendre, je peux penser que je vole.
Et
donc,
hop.
Il est absolument déconseillé de consommer ça seul. Mmh. Et là, je vous parle, bien entendu, d'un usage thérapeutique. On parle ici de thérapie assistée par des psychédéliques. Donc, quand le patient reçoit la substance, il est encadré de 2 voire 3 psychothérapeutes ou assistants qui sont là et qui l'accompagnent durant tout le trip qui peut durer 4 à 6.
Donc, il y en a un qui ouvre la fenêtre, l'autre qui le pousse. Et...
Ni vu ni connu.
Ok, merci, Dani. On va s'arrêter là parce qu'on n'aura plus de temps pour l'essentiel, mais c'était vraiment très intéressant et vraiment très étonnant aussi. Hein, l'histoire des psychédéliques, c'est fou. Bien, comme à l'habitude, on va passer un premier morceau musical. Allez, vas-y. Qu'est-ce que tu nous as concocté ?
Alors, le premier morceau que j'avais envie d'entendre, ou de réentendre, de partager en tout cas, c'est All I Want, d'un groupe irlandais, Codaline, que je ne connaissais pas du tout avant d'avoir découvert il y a un an et demi, à travers surtout le clip. Hein. Pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas, il faut vraiment voir le clip qui est assez impressionnant. Et pourquoi cette chanson ?
Pourquoi pas ?
Parce que dans la chanson, vous verrez, il est dit instantanément que je m'identifie. Une personne m'a fait découvrir, a révélé ce qu'il y avait de meilleur en moi, des choses que je ne connaissais pas moi-même. Elle se reconnaîtra. Et donc,
bonjour Claire.
Ah, tiens.
Il est coquin.
Et le personnage, il faut voir le clip qui va avec, hein, le personnage de la chanson, il exprime en partie...
Fantastique, on va se passer ça. Je vous rappelle que vous êtes sur Judaïka, Yes Dog, votre émission favorite, et que vous nous retrouvez le lundi à 16h, le mardi à 20h, et en podcast sur Spotify, sur Apple Podcast. À tout de suite après ceci. See your face once more.
could die a happy man, I'm sure. When you said your last goodbye, I died a little bit inside. I lay in tears in bed all night, alone without you by my side. But if you loved me, why'd you leave me? Take my body.
Nous revoilà avec notre invité, l'excellent docteur Danny Souheri, psychiatre qui va, cette fois-ci, après son côté psychédélique, va nous présenter son côté bipolaire. Et donc, non, excuse-moi Danny, hein, ça fait évidemment pas très sérieux, mais c'est un garçon très sérieux. Alors, la psychose maniaco-dépressive, la bipolarité, le dada du docteur Souheri. Qu'est-ce que c'est ? On est à toi.
Ouais. Alors, d'abord, une petite précision terminologique et dialectique. Hein. C'est vrai que la première fois qu'on a nommé cette maladie, on l'appelait, début du 20e siècle, psychose maniaco-dépressive. Et puis, c'est devenu la maniaco-dépression.
C'est
et puis, dans les années 70, le trouble bipolaire ou les troubles bipolaires. Donc tout ça est un peu synonyme, sachant très bien aussi qu'aujourd'hui, on ne considère pas cette pathologie comme une psychose, la psychose étant plutôt un terme réservé à la paranoïa, à la schizophrénie. Là, on est dans autre chose. Alors, comment définir les troubles bipolaires ? Ce sont des troubles qui sont considérés comme des troubles de l'humeur. Et pour bien comprendre le trouble bipolaire, il faut d'abord comprendre alors comment est-ce qu'on peut avoir une pathologie liée à l'humeur ? Parce que l'humeur, c'est en lien aussi avec les émotions. Et c'est vrai qu'on reproche souvent aux psychiatres modernes de vouloir mettre de la pathologie partout, de dire que les humeurs, c'est pathologique, les émotions, c'est pathologique. Et donc, je voulais d'abord un peu planter le décor à ce niveau-là et montrer combien on peut avoir des troubles de l'humeur. On peut souffrir, en tout cas, de perturbations de l'humeur. Alors, l'humeur, c'est une fonction essentielle, fondamentale de l'organisme, hein, comme la respiration, comme l'appétit, comme le rythme cardiaque, comme la température. Et donc, pour toutes ces fonctions de l'organisme, il est bien admis qu'on peut avoir des troubles de la respiration, par exemple. On peut trop respirer, on hyperventile, on ne respire pas assez, on hypoventile. Et quand on est dans ces extrêmes, bah, ça peut être extrêmement douloureux, extrêmement pénible, voire mortel. Hein, on est bien d'accord. Et donc, l'humeur est une fonction essentielle de l'organisme. Sans notre humeur, on n'est pas en mouvement, on n'est pas, on n'a pas de comportement, on est neutre. Donc, c'est important. Je ne dirais pas que c'est une fonction vitale, mais on peut très bien imaginer que si notre humeur est à zéro pendant trop longtemps, on peut en mourir. Mmh. Et donc, ces variations de l'humeur peuvent être extrêmes. On peut avoir une humeur excessive ou une humeur complètement à plat. Et donc, on est tous quelque part bipolaires puisque notre humeur va d'office avoir des variations.
Ça, c'est certain.
Vers le haut et vers le bas.
Et c'est normal.
Et c'est normal. Ce qui est complexe, c'est qu'il y a une multitude de facteurs qui va influencer notre humeur, bien entendu. Il y a des facteurs biologiques, hein, nos neurotransmetteurs, notre chimie cérébrale, notre fonctionnement hormonal, notre thyroïde. On sait aussi combien, par exemple, voilà, chez la femme, lors des règles et des menstruations, ça peut être parfois extrêmement compliqué au niveau de l'humeur. Donc, les hormones gynécologiques, œstrogènes, testostérone, vont aussi influencer notre humeur. Donc, il y a la météo, la luminosité, il y a les bonnes nouvelles, les mauvaises nouvelles, le stress. Donc, il y a des tas de facteurs internes, biologiques, psychologiques et des facteurs extérieurs qui vont influencer notre humeur. Et mon humeur, c'est ce qui va vraiment donner une tonalité à ce que je ressens, qui va être plutôt négatif ou plutôt positif en fonction de cette multitude de facteurs. Et donc, je le redis, quelque part, on est tous bipolaires puisque nos humeurs vont varier vers le haut ou vers le bas.
Sauf qu'on ne touche pas les extrêmes.
Voilà, exactement. Donc, ça devient pathologique comme les variations de tas d'autres fonctions de l'organisme quand on arrive à des extrêmes. Et c'est ça que c'est ça qui définit le trouble bipolaire. Ce sont des personnes qui sont sujettes à avoir des variations extrêmes de l'humeur.
Qui sont handicapantes dans le cadre d'une société existante ou qui sont handicapantes pour l'individu en tant que tel?
Ah, c'est une très bonne question parce que comme c'est souvent le cas en psychiatrie, ça dépend aussi de la tolérance, je dirais, de l'environnement. Mmh. Mais là, on parle vraiment d'une pathologie. Je veux dire, qui fait souffrir la personne, qui est handicapante pour la personne, indépendamment de facteurs sociétaux, culturels,
Alors, bien entendu. Les causes
sont là aussi complexes et multifactorielles, tu penses bien, parce que tout ce qui peut impacter sur l'humeur et de manière extrême, alors il y a d'abord des causes génétiques. Hein, on est convaincu, même si aujourd'hui, la génétique des troubles bipolaires est tellement complexe qu'on ne sait pas trop ce qui est hérité, tellement c'est complexe. On peut hériter d'un package, d'une multitude de gènes en lien avec des mécanismes cérébraux, de la chimie cérébrale. Mais il y a tellement de gènes qui sont impliqués que c'est difficile de dire qu'il y a un facteur génétique impliqué. Mais on peut hériter d'une vulnérabilité à développer un trouble bipolaire au niveau génétique. Après, j'ai parlé des facteurs hormonaux, oui. Des dérèglements de la thyroïde peuvent générer un tableau clinique de bipolarité. Après, on verra quels sont les symptômes. Mais parmi les causes principales, ce sont des facteurs environnementaux, donc des choses qui vont être acquises après la naissance. Et la dimension principale causale, qui a un effet aussi sur le cerveau, c'est le trauma, c'est la dimension traumatique. Toutes les personnes bipolaires, même si elles-mêmes ne le savent pas à la base, mais grâce à un travail de thérapie, vont l'apprendre, ont vécu des traumas ou ont vécu de l'adversité ou des choses traumatiques dans leur existence. Et par trauma, on ne cherche pas des choses spectaculaires. Hein. Ce n'est pas que des viols, des guerres, des attentats, des abus sexuels. Non. La dimension traumatique, c'est aussi, par exemple, avoir été en immersion durant sa tendre enfance dans un climat de terreur familiale, un père extrêmement autoritaire, rigide, critique, dévalorisant, humiliant, mais qui m'aimait, hein, il m'adorait. Mes parents m'adoraient, mais je me suis développé dans mon identité, dans quelque chose qui est traumatique, quelque part, qui m'a dévié d'un développement harmonieux. Et ça, ça va avoir un impact. Et là, c'est vraiment l'apport des neurosciences, pas seulement au niveau de mon développement sur le plan psychologique, mais aussi sur mon cerveau. Et la partie, effectivement, de mon cerveau qui va gérer mes humeurs et mes émotions. Donc, on sait que ces dimensions traumatiques sont très souvent à l'origine des dérèglements, y compris neurochimiques, qui vont amener cette difficulté à réguler ses humeurs.
Est-ce que c'est une question peut-être idiote, mais j'avais entendu parler aussi que le cannabis, on parlait des drogues tout à l'heure, le cannabis pouvait aussi entraîner une bascule vers la bipolarité, alors est-ce que c'est préexistant, mais est-ce que ça accentue
Alors, toutes les substances comme l'alcool, le cannabis, la cocaïne, toutes les drogues ou même éventuellement les psychédéliques.
Les psychotropes, quoi.
Les psychotropes, merci, c'est le terme, y compris les antidépresseurs, hein, qui sont des psychotropes, sont susceptibles de déclencher la maladie. Alors, ce n'est pas les causes à la base, parce que les causes, elles sont plus profondes, comme on vient de le dire, génétiques, un environnement traumatique, l'adversité, des choses comme ça, qui a généré cette susceptibilité. Mais ça peut être latent, non exprimé. Hein, on connaît un tas d'exemples en médecine de pathologies, même génétiques, mais dont on est porteur sain. Donc, on ne va pas développer la maladie. Et puis, à un certain moment, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe dans l'environnement pour que la maladie se déclenche. Et un des facteurs qui peut déclencher un premier épisode, c'est la consommation, effectivement, de cannabis. C'est vrai pour les troubles bipolaires, c'est vrai pour la psychose comme la schizophrénie. Donc, ça peut être un déclencheur, même si ce n'est pas la cause.
D'accord. Mmh.
Alors, ce qui est important aussi de savoir, c'est que ça peut être un déclencheur, mais aussi ça peut être quelque chose qui va alimenter le déséquilibre, je dirais, cérébral. Parce que, autant, je disais, hein, la génétique, le trauma, ça peut impacter tout notre fonctionnement cérébral, en particulier au niveau des émotions et des humeurs. Mais c'est réversible. Hein, c'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. On peut prendre soin de son cerveau. Hein, j'ai vécu un environnement traumatique, ça a fait de moi quelqu'un d'hypersensible, émotif, j'ai fumé du cannabis, ça a déclenché ma bipolarité, certes, mais je peux faire marche arrière. Si je prends soin de moi, j'ai une bonne hygiène de vie, j'ai de l'amour, de la compassion, une bonne trajectoire professionnelle, enfin des choses gratifiantes dans ma vie, bah, ça peut se réparer. Au contraire, si je continue à abîmer tous ces processus, bah, ça va aggraver ma pathologie, bien entendu. Et parmi les facteurs qui aggravent, c'est de continuer à consommer des substances toxiques.
Et il y a d'autres facteurs comme ça, d'autres facteurs déclenchants ou aggravants?
Bah, oui, il y a, alors, indépendamment des substances, bien sûr, bah, tout ce qui est choc émotionnel. Hein. Bien entendu, la maladie peut se déclarer à l'occasion de la perte d'un boulot, la perte d'un proche. Dans la bipolarité, on parle même aussi de chocs positifs. Hein, des chocs émotionnels positifs peuvent déclencher un premier épisode d'une phase maniaque. Hein,
voilà, oui, c'est ça.
Une phase maniaque dans un instant. Le stress, bien entendu.
D'accord.
Alors, donc, on a envisagé les causes. Maintenant, sur le terrain, comment est-ce qu'on le diagnostique?
Ouais. Alors, c'est un diagnostic qui est pas facile, qui est complexe, parce que ça touche, bien entendu, à toute une série de fonctions qui ne vont pas pouvoir être appréhendées de manière objective, comme c'est souvent le cas en médecine. Il n'y a pas de prise de sang, il n'y a pas de scanner, il n'y a pas de radio, il n'y a pas d'échographie. pour pouvoir faire un diagnostic.
Ça ne sert à rien, en fait, si on n'en profite pas, nous. Je ne vois pas vraiment l'intérêt de faire ce genre de diagnostic. Hein, Mayaël ?
Même si dans l'avenir, les neurosciences, et en particulier l'imagerie cérébrale, va nous permettre peut-être d'arriver à...
L'imagerie fonctionnelle, peut-être un jour.
Et l'imagerie fonctionnelle particulier. Ouais. Et donc, on fait le diagnostic était un diagnostic clinique. Donc, le psychiatre va écouter. Il faut écouter. Il faut prendre le temps d'écouter la personne qui vient nous voir, les patients. Et alors, le diagnostic se fait sur base d'observations, sur base de ce que la famille peut dire, ce que le patient va rapporter, de tout ce qui va être perturbé quand on a des humeurs extrêmes. Et donc, finalement, ce n'est pas si difficile que ça, on se dit. Quand on a une humeur qui va vers le bas, ben, on peut être morose, dépressif, triste, cafardeux, on peut avoir des angoisses, et être dans ce climat émotionnel, ben, ça va perturber mon comportement. Je vais être plus ralenti, j'aurai moins d'énergie, je vais dormir plus longtemps... j'aurai une baisse de libido. Donc, toutes mes humeurs perturbées, avec toutes les émotions négatives qu'elles entraînent, va bien entendu perturber mon comportement. Mais ça, c'est normal, même chez...
Tout venant, quoi.
Oui, bien sûr.
Même si on n'est pas malade, hein, c'est normal. Sauf que, comme on l'a dit, chez les personnes bipolaires, c'est dans l'extrême. Donc, quand ils vont avoir des humeurs qui vont vers le bas, bah, c'est ce qu'on appelle un état dépressif majeur. Donc, ça peut aller jusqu'à des mélancolies sévères, des pensées suicidaires, avoir des sentiments de culpabilité, de ruine, de se dire que je suis responsable de tous les maux de la terre, penser que je ne vaux plus rien, ne pas dormir, perdre l'appétit, être complètement ralenti, perdre ses capacités de concentration, de mémoire. Vous allez me dire, tout ça, c'est normal d'être comme ça. Non, là, je vous parle d'extrême. Ah, tu parlais, Yaël, tout à l'heure de handicap. Et là, indépendamment de ce que je fais dans ma vie, que je sois une mère au foyer, que je sois PDG, que je sois étudiant, que je sois à l'école, ça va me faire souffrir littéralement et ça va me handicaper. Et donc là, on parle d'une souffrance vraiment extrême dans le côté dépressif. Donc ça, c'est...
Ça, c'est le down.
Alors le up, bah, c'est un peu le contraire. Ben, comme nous tous, quand on a une humeur un peu positive, on est un tant soit peu exalté, super heureux, plein d'énergie, plein de projets, envie de faire plein de choses, une libido un peu plus élevée que d'habitude, je suis plus positif sur le plan social, j'ai envie de rencontrer des gens, de parler, j'ai une bonne mémoire, des bonnes capacités d'attention. Ben, tout ça, vous multipliez par 10 et vous imaginez ce que ça peut donner. Voilà, sur le plan social, je suis désinhibé, je vais parler à tout le monde, j'accoste des gens dans la rue, je suis hyper joyeux, j'ai envie d'exprimer ça et je l'exprime à outrance, j'ai l'impression d'être le roi du monde, je suis capable de déplacer des montagnes, j'ai 1000 projets à la minute, j'ai envie de me faire plaisir, je dépense de l'argent.
Dans des limites complètement délirantes.
C'est ça, dans les limites extrêmement délirantes. Ouais. Et comme je le disais, tout ça va impacter et influencer mon comportement.
Ah ouais.
Et mon comportement va devenir complètement problématique. Et là, ça rejoint un peu ta remarque de tout à l'heure, Yaël, sur est-ce que c'est lié aussi à la tolérance de l'environnement.
De la société, ouais.
Et là, la société n'accepte pas, quoi. Quand vous la dérangez un peu trop, dans l'entreprise, dans la famille, dans la rue, hein, les personnes bipolaires sont parfois... avoir des troubles du comportement comme ça dans la rue, on appelle la police. Et c'est souvent ça qui les amène finalement à l'hôpital.
Mmh. Donc c'est eux qui consultent ou alors c'est...
C'est la famille, c'est ou, la les, famille ou les qui proches pousse. Qui envoient.
Alors quand on est en phase dépressive, on a plus facile à aller chez le médecin. Quand on est en phase maniaque, bien sûr, c'est ce qu'on appelle une phase maniaque. Hein. Le patient n'a pas conscience de ses excès. Il manque d'introspection, comme on dit. Et donc, il est dans une dérive totale. Et quand vous le confrontez à ces excès de comportement, il peut devenir agressif. Il se demande, mais avec quoi tu viens, quoi? C'est normal que je sois dans cet état-là. Je m'exprime enfin, je dirais. Je vis comme j'ai vraiment envie d'exister. Je ne suis pas la moitié de moi-même. Donc, laissez-moi aller dans cette voie-là. Ça fait des catastrophes terribles dans les familles, dans les couples. on perd son boulot, enfin ça peut
aller des dépenses très... totalement inconsidérées. On a vécu ça autour de nous, oui. Ça peut être assez délirant. Hein.
Alors les dépenses inconsidérées, c'est vraiment... Alors,
terrible.
On considère ça parfois comme la caricature du bipolaire, mais c'est vraiment terrible.
Ah ouais.
Ça peut vraiment mettre à mal les finances d'une famille, d'un couple,
oui.
Avec un impact sur les enfants. C'est vraiment catastrophique. Alors le patient, lui, dans cet état-là, il se sent de manière extraordinaire, le roi du monde. Mais... C'est un leurre, hein, parce que c'est des personnes qui le disent eux-mêmes après coup. Il y a aussi beaucoup d'angoisse, beaucoup de tension. Il y a aussi le dark side du côté maniaque, qui est le côté très irritable, très colérique, très impulsif, qui peut très facilement devenir
violent
et agressif.
Alors,
et comment... Pardon.
Pardon, docteur, vas-y.
Comment passe-t-on d'une phase à l'autre?
Ah, c'est ça que j'allais demander, le switch.
Le switch.
Ouais.
Un switch
en fait, tous les scénarios sont possibles. Alors, dans le trouble bipolaire classique, la maniaco-dépression, très souvent, c'est des cycles où les deux phases se tiennent. C'est-à-dire, on fait d'abord soit une grosse, grosse phase dépressive et puis on fait un virage maniaque, ou au contraire, on fait d'abord une grosse phase maniaque et puis après, on vire dans le versant dépressif. Alors, ce n'est pas toujours évident maintenant parce qu'il y a aussi l'impact des traitements. Hein, qui vont moduler l'histoire naturelle ou la trajectoire naturelle des cycles. Après, tous les scénarios sont possibles. On peut faire aussi une phase maniaque isolée qui n'est pas du tout ni précédée ni suivie d'une phase dépressive ou une phase dépressive tout à fait isolée aussi.
On peut aussi, je pense, tu vas nous préciser ça, passer d'une phase dépressive à une phase maniaque plusieurs fois par jour.
Alors, c'est ce qu'on appelle effectivement, ben, connaît son affaire, hein. Le docteur, c'est ce qu'on appelle des cycles rapides ou des états mixtes. Donc ça, c'est des variantes. Donc les états mixtes, et c'est en fait, on prend conscience aujourd'hui, grâce aux témoignages des patients, que quasi toutes les phases de la bipolarité sont des états mixtes. C'est-à-dire que oui, on peut passer d'une humeur à l'autre très rapidement. C'est extrêmement labile et la moindre petite chose peut faire switcher, je dirais, la personne d'un état à l'autre. Mais en réalité, on sait aussi que toutes les phases sont en réalité mixtes. Alors c'est vrai que dans une phase dépressive, le patient bipolaire est surtout dans sa dominante dépressive. Il est à 90%, je dirais, dépressif. Mais il y a quand même des éléments maniaques dans sa phase dépressive. C'est ce qui fait d'ailleurs reconnaître une phase dépressive de la personne bipolaire versus une phase dépressive de la dépression qui n'est pas bipolaire.
Il faut avoir une sérieuse expérience quand même.
Alors ça, c'est effectivement l'expérience. Donc de pouvoir déceler ces éléments mixtes ou de cycles rapides. Alors je voudrais quand même mentionner ce qu'on appelle l'état hypomane, parce que dans les troubles bipolaires, là on parle de la forme la plus spectaculaire, la maniaco-dépression, donc les phases dépressives et les phases maniaques, ce qu'on appelle aujourd'hui le trouble bipolaire de type 1. Mais il y a une variante qu'on appelle le trouble bipolaire de type 2. Ce sont des personnes qui font des phases dépressives, mais quand ils vont vers le haut, ce n'est jamais aussi intense qu'une phase maniaque. C'est ce qu'on appelle une phase hypomane ou hypomaniaque. C'est une phase maniaque divisée par deux, quoi. Mm-hmm. Donc, les personnes bipolaires hypomanes apprécient beaucoup cet état d'hypomanie, qui est parfois aussi apprécié par l'entourage, hein. C'est le collègue qu'on a tous envie d'avoir, qui va toujours tout faire, qui va prendre les gardes de tout le monde, qui va être hyper dynamique, hyper s'investir dans l'entreprise, par exemple. Sauf qu'à la longue, c'est fatigant.
Ouais, ah, oui, mettre beaucoup d'énergie là-dedans, en fait.
Voilà, beaucoup d'énergie. Ouais.
Alors, est-ce qu'il y a des signes biologiques? Est-ce qu'on va chercher des choses particulières? Est-ce qu'on va aller chercher éventuellement des profils génétiques, des choses comme ça?
Alors, dans l'approche médicale classique, on va d'abord exclure qu'il n'y ait pas une pathologie organique qui est à l'origine des variations de l'humeur. Donc, il faut exclure...
Pathologie hormonale.
Pardon ?
Hormonale, thyroïdienne.
Oui, par exemple, il faut exclure une pathologie thyroïdienne, il faut exclure des pathologies de la surrénale... il faut quand même aussi exclure des pathologies, des troubles, des maladies neurologiques qui peuvent atteindre les zones du cerveau impliquées dans les humeurs, les émotions et qui peuvent être à l'origine du trouble.
Comme par exemple
le syndrome frontal. Hein, quelqu'un qui a une tumeur frontale ou qui a fait un AVC dans la zone frontale et quelqu'un qui va avoir des dérèglements émotionnels et de l'humeur dont l'origine est sa pathologie neurologique. Mmh. C'est celle-là qu'il faut cibler et soigner et qui a pour conséquence un trouble bipolaire ou d'autres troubles psychiatriques d'ailleurs. Donc exclure une pathologie quand même organique. Après, là, ça devient un peu le flou artistique, mais les psychiatres, on a l'habitude de ça. Il n'y a malheureusement pas de test génétique, même si il y a vraiment des initiatives pour essayer de développer, mais moi, personnellement, j'ai fait ma thèse sur la génétique des troubles bipolaires, justement, et je m'intéresse beaucoup à ce sujet. Je crois que c'est un peu illusoire de penser qu'on va un jour pouvoir faire un test génétique diagnostique, tellement la génétique de ces pathologies est complexe. C'est une multitude.
C'est vaste, quoi.
Voilà. Et c'est des variantes des variantes génétiques qui ne sont pas super exprimées, donc on va retrouver de manière très fréquente dans la population générale. Donc, je ne crois pas à un test génétique.
Est-ce qu'il y a une pénétration familiale?
Oui. Alors, le corollaire de ça... Alors, on sait qu'il y a une variante, il y a un background génétique parce que, justement, il y a une... Enfin, on voit des familles dans lesquelles il y a plusieurs générations dans lesquelles il y a au moins une à deux personnes qui sont affectées par le trouble bipolaire.
Et le trouble peut être différent chez l'un ou chez l'autre.
Exactement. On va parler du spectre de troubles bipolaires. Donc, il y a des formes classiques de maniaco-dépression, des troubles bipolaires 1, des troubles bipolaires de type 2, des dépressions qui ne soient pas nécessairement bipolaires, des troubles anxieux. Donc, il y a quand même une forme d'héritage génétique, même si, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, ce qui est le plus déterminant, ça va être quand même l'environnement.
Oui, c'est ça. Donc, le trauma... Et alors, tu vas me dire, on ne peut peut-être pas répondre à cette question, mais pourquoi est-ce qu'une personne va développer un trouble bipolaire après un trauma et une autre pas ? Une autre personne qui aurait vécu le même style de trauma ne va pas se développer ce trouble. C'est que donc ce trouble est éventuellement... Il y a un autre trigger, il faut autre chose, quoi.
Oui, mais ça c'est une question très importante, mais on parle effectivement de l'interaction de facteurs génétiques et de facteurs d'environnement. C'est-à-dire que si j'ai cette vulnérabilité génétique notamment, même si je ne sais pas l'identifier ou l'appréhender par un test génétique, il y a une certaine vulnérabilité génétique. Si à partir de là, je vis des situations qui sont des dimensions traumatiques, ben j'ai plus de chances effectivement de développer la maladie que si je vis le même trauma n'ayant pas cette vulnérabilité génétique. Donc il y a des facteurs de vulnérabilité qui font que je suis plus à risque. Mais il y a aussi l'intervention de facteurs protecteurs. Je veux dire, on va parler ici de résilience et de facteurs de résilience. Je peux avoir une vulnérabilité génétique, vivre des éléments traumatiques, mais si à côté de ça, il y a quand même des facteurs de résilience, un entourage familial, une vie avec un certain équilibre affectif, ben ça va quand même agir comme des facteurs protecteurs, bien entendu.
Donc en pratique, le patient va arriver soit en phase maniaque, soit en phase dépressive pour la première fois au cabinet. Il y a quand même donc une prise de sang qui est faite dans le cas des troubles hormonaux, etc., ou une IRM, qu'est-ce qui nous oriente vers le bilan à établir avant de...
Alors, une prise de sang sera faite, peut-être pas la première fois que le patient va arriver au cabinet, mais s'il y a une... Parce que, je veux dire, en tant que psychiatre, on est aussi médecin.
Bien sûr.
Donc, il faut quand même qu'on fasse dans l'anamnèse un check d'antécédents somatiques qui peuvent nous mettre sur la piste d'une origine organique. Alors oui, là, il y aura prise de sang ou éventuellement l'avis d'un confrère, neurologue, endocrinologue qui va pouvoir mieux se pencher sur la question. Quant à l'imagerie cérébrale, pour l'instant, il n'y a pas d'examen qui permette vraiment de faire un diagnostic. Mais sauf si on suspecte, bien entendu.
Non, pour exclure.
C'est pour exclure voilà, une pathologie.
La pathologie frontale, par exemple, oui, dont tu parlais.
Exactement. Donc là, bah, moi, souvent, je réfère à un neurologue qui saura mieux que moi quel type d'imagerie cérébrale appliquer par rapport à une suspicion. De toute façon, ce sera dans ses mains par la suite.
Et après, donc, on a exclu toutes les pathologies organiques. Donc, on a ce diagnostic. Qu'est-ce qu'on en fait en pratique? Qu'est-ce qui se passe? Ouais.
Alors, la première étape, donc, les étapes, c'est d'abord, il faut faire prendre conscience au patient du diagnostic. J'y reviendrai. Ça, c'est vraiment la première étape. Sans ça, c'est une catastrophe. C'est comme un diabétique qui fait un déni massif de son diabète. Mmh. Ça arrive quand même fréquemment. Mmh. C'est une catastrophe. Je veux dire, il ne va pas pouvoir gérer son insuline, gérer son alimentation. Donc, il va récidiver, il va faire des comas diabétiques. C'est pareil pour le patient bipolaire. Donc, il va falloir d'abord amener ce diagnostic. J'y reviendrai dans un instant. Et la seconde phase, bien entendu, c'est le traitement. Traitement médicamenteux, qui est l'axe principal du traitement. Et puis après, c'est sur base aussi de tout ce qu'on vient de dire, c'est amener le patient à se soigner aussi sur le plan psychologique. Hein, puisqu'on parle de dimension traumatique, ça, c'est pas les médicaments qui vont soigner ça, bien entendu. C'est la thérapie ou toute forme de soins, je dirais, psychologiques ou de bien-être qui va permettre quand même de se libérer aussi de cette dimension traumatique qui est trop souvent réactivée.
Okay.
Mais donc, diagnostic, faire accepter le diagnostic, traitement biologique, médicamenteux et traitement psychologique.
Alors, traitement psychologique, ça c'est clair, c'est, voilà, tu viens d'en parler, c'est une thérapie. Mais, et alors les médicaments en question, qu'est-ce qu'on utilise?
Alors les médicaments, bah, c'est un traitement qui est assez complexe, où on va devoir jongler avec plusieurs familles de médicaments. Il y en a trois principalement, ce qu'on va appeler les stabilisateurs de l'humeur, les régulateurs de l'humeur. La deuxième famille, c'est les antidépresseurs. Et la troisième catégorie de traitement qu'on va utiliser, c'est les neuroleptiques. Alors, je m'explique. Le principal, c'est les régulateurs de l'humeur. Alors, le plus connu, c'est le lithium. Mais il y en a d'autres qui sont en réalité... Il y a le lithium et les autres régulateurs de l'humeur sont majoritairement des antiépileptiques. Donc, pour citer des noms, la dépakine, le lamictal... Donc la molécule, c'est la lamotrigine, ou encore le tégrétol, la carbamazépine. Oui. Alors on se demande, mais pourquoi les antiépileptiques sont des régulateurs de l'humeur? Et ça, c'est très intéressant pour comprendre et pour faire comprendre aux patients sa pathologie. En réalité, comme on vient de le dire, le trouble bipolaire, c'est la conséquence d'un dérèglement des humeurs qui est en fait un dérèglement du système des émotions. Hein, les personnes bipolaires, ce sont des personnes qui sont capables de ressentir des émotions à l'extrême et d'exprimer leurs émotions à l'extrême. Donc c'est comme si, et c'est eux-mêmes qui le disent, ils font une espèce d'épilepsie émotionnelle. En réalité...
Débouffée.
Ben voilà, l'épilepsie qu'on connaît communément, c'est une atteinte des zones motrices, on va dire, du cerveau, qui contrôle les mouvements. Et donc, j'ai un AVC, une tumeur ou un déficit génétique, je ne sais pas moi, dans ces régions. Et ça va amener des épisodes de convulsion motrice. On ne peut pas dire à quelqu'un qui est en train de convulser, arrête de convulser. C'est irrépressible. Mais le fait de prendre un antiépileptique ne va pas le rendre immobile non plus et paralysé. Simplement, ça va empêcher les extrêmes, donc les convulsions. Sauf que chez la personne bipolaire, ce n'est pas les zones motrices de son cerveau qui sont impliquées, mais c'est son système limbique. C'est vraiment là où, effectivement, s'allument les neurones qui sont impliqués de générer des émotions. Donc, c'est comme une forme d'épilepsie, mais émotionnelle. Et donc là, ils pètent un câble, ils sont hyper tristes ou hyper joyeux ou hyper colériques. Et donc, c'est comme ça qu'on comprend l'effet stabilisateur de l'humeur des antiépileptiques.
OK.
D'accord.
Et le lithium, lui, est un médicament en fait, qui diminue l'excitabilité des neurones. Donc là aussi, qui va apaiser tous ces systèmes. Donc ça, c'est l'axe principal.
Oui, et puis après, le reste, en fonction des besoins, l'antidépresseur, c'est ça.
En fonction des phases.
En fonction des phases aussi.
Un antidépresseur s'il est en phase dépressive et les neuroleptiques s'il est en phase maniaque.
Mais un antidépresseur, c'est une molécule qui n'a pas un effet immédiat. Je veux dire, l'antidépresseur va avoir de l'effet après 3 semaines, 4 semaines, enfin, je veux dire, en fonction du type de molécule. Et donc, le patient qui arrive chez toi en phase dépressive, tu lui donnes un antidépresseur, 3 jours après, il est en phase maniaque. On garde l'antidépresseur ?
Ah, ça, c'est vraiment une remarque très importante parce que tu dis... Les antidépresseurs, ça prend du temps avant d'agir.
Oui.
C'est vrai, 6 à 8 semaines parfois. Mais c'est surtout vrai chez les patients dépressifs, mais qui ne sont pas bipolaires.
D'accord.
Les patients dépressifs bipolaires, eux, ils ont... Et ça, parfois, ça permet de faire le diagnostic, justement. Mmh. On traite une personne dépressive et 3 jours après, « Waouh, docteur, c'est génial,
bah non, c'est pas le médicament.
On m'avait sauvé la vie.
Ouais. »
En fait, c'est un bipolaire
mais ouais.
qui s'ignorait ou,
ouais.
que j'ignorais.
Ouais.
Donc, cette particularité dans la réponse aux antidépresseurs est quand même une signature, je dirais, de bipolarité. Je ne dis pas que c'est comme ça dans tous les cas. Il y a aussi des personnes bipolaires en dépression chez qui ça va prendre du temps mmh. avant d'agir. Mais donc, l'antidépresseur est susceptible de provoquer un virage maniaque. Donc, c'est à utiliser avec... véritablement avec de la précaution chez les personnes bipolaires.
Merci, monsieur. Dany Souheri, c'était très intéressant. Est-ce que... Mais oui, on est déjà presque au bout de l'émission, là. Ben oui, tu vois, tu parles, tu parles.
Il y a encore plein de choses à dire.
Mais c'est ça. Tu n'aurais pas dû manger ces champignons avant de venir.
Mais tu m'as allumé.
Oui, je t'ai allumé. Bon, écoute, c'était très, très bien. Est-ce que tu as éventuellement une dernière chose que tu voudrais faire passer, un petit message ou un petit détail que tu aurais oublié?
Oui, enfin, beaucoup de détails.
Donc, oui,
quand même dire j'imagine. Aussi que... Il y a eu un peu un effet de mode hein, qui est venu des États-Unis où jusqu'à il y a quelques années, c'était un peu à la mode. Hein. Je suis bipolaire et tu avais des tas de stars américaines qui déclaraient comme ça une espèce de coming out sur mm-hmm. la bipolarité. J'ai trouvé ça extrêmement délétère parce que c'était très caricatural, très cliché. Avec la bipolarité, c'est le gars qui s'achète une Ferrari qui va se suicider. Ça a fait beaucoup de mal aux personnes bipolaires. Mais c'est une pathologie aussi qui est très fréquente. Hein. On parle ici de 2 à 3% quand même de la population qui sont infectées par ce trouble. C'est énorme.
C'est énorme.
Voilà. Ceci dit, moi, je trouve que c'est un domaine passionnant et c'est passionnant pour tout le monde parce qu'en réalité, c'est une fenêtre ouverte sur chacun d'entre nous. Parce que c'est comme si je regardais à la loupe comment je fonctionne, moi, sur le plan émotionnel. Je veux dire, ces personnes bipolaires, c'est un véritable laboratoire des émotions, j'ai envie de dire. Ça nous apprend, moi, ça m'apprend énormément sur la nature humaine, cette manière qu'ils ont d'exprimer de manière exponentielle tout ce qu'on peut ressentir, nous, les personnes normales.
Oui, enfin, normal.
Tout est relatif.
Oui, c'est ça, disons, étiqueté normal.
Ça ne se voit pas.
Merci beaucoup, Dany. Nous recevions donc le docteur Dany Souheri, qui est psychiatre et qui nous entretenait de bipolarité. C'était très chouette. Merci d'être repassé.
Malheureusement,
mais bon, c'est comme ça. Donc, Dany récidiviste, je disais au début de l'émission, c'est gentil d'être repassé. Tu repasseras peut-être encore, d'ailleurs, parce que Dany est un... Et c'est un puits de science. Hein. Donc, c'est toujours très intéressant de t'écouter. Merci pour
ça. Merci beaucoup.
Maïaëlle.
Je te dis à bientôt.
T'es en phase quoi, toi, là, aujourd'hui ?
C'est un mix.
Non, moi, je trouve que t'es plutôt...
Je suis plus maniaque aujourd'hui.
Non, tu es hypomane.
Je... Ah bon ?
Tu es... Notre Yaël est hypomane.
Ah. Ouais, écoute.
Allez,
c'est la radio qui me met dans cet état.
Chers tous, là, restez hypomanes jusqu'à la fin de vos jours, c'est quand même un état plutôt satisfaisant, ça, hein, que l'hypomanie soit avec vous. Merci d'avoir été avec nous pour cette émission. On se retrouve très très vite pour une prochaine émission et on va passer le deuxième morceau musical de notre ami Dany, qui est...
Oui, j'ai choisi Sueños de Santana, d'abord parce que j'adore... la guitare électrique,
oh,
en
ouais.
particulier Santana.
Moi aussi.
Mais aussi parce que voilà, c'est un hymne à l'amour, à la liberté et à la paix. À la paix.
À la
on
paix.
A besoin actuellement.
Celle-là, on la trouverait volontiers après cette petite balade. À très vite,
à
chers
bientôt.
Tous, et portez-vous bien.